Europe 1,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Très heureuse de vous retrouver dans votre magazine Bien fait pour vous sur Europe 1. Et si vous le savez, nous sommes ensemble pour voir comment rendre notre vie plus douce dans tous les aspects qui la composent. Alors aujourd'hui Julia, qu'est-ce qu'on a au menu ?
Alors je vais vous donner d'abord le programme de la séquence avec les bienfaiteurs d'Europe 1 que l'on retrouve tous les jours ici dès 11h45. Et aujourd'hui le duo sera composé de Benjamin Lévesque, notre expert beauté. Alors comme vous le savez, les températures ont bien chuté, donc il a prévu de nous aider à prendre soin de nos lèvres, comment les chouchouter, les bons ingrédients à mettre dessus et ceux à éviter également. Il va tout nous dire. Et puis avec ce froid, vous êtes peut-être souvent tenté en ce moment de prendre un petit café, mais connaissez-vous les règles de savoir-vivre pour le déguster avec classe ? Eh oui, il y en a des règles et c'est Jérémy Combe qui nous fera la piqûre de rappel. Mais avant cela, Mélanie.
Avant ça, dès le début de l'émission, je pressens, j'ai du pif pour ça, Julia, que vous allez adorer ce sujet, et vous aussi, auditeurs d'Europe 1. On va parler de pressentiment, de sixième sens, de présage. Vous savez, on a tous cette petite voix qui nous parle au creux de l'oreille, par exemple au moment de prendre une décision importante. Eh bien, on va se demander précisément comment fonctionne cette petite voix, ce qu'on appelle aussi l'intuition. Et surtout, on va voir s'il est vraiment toujours judicieux et important de la suivre. Pour nous éclairer avec finesse sur ce sujet, nous avons convié aujourd'hui en studio Saverio Tomasella. Il est docteur en psychologie et psychanalyste. Bien fait pour vous, c'est maintenant.
Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1, on vous accompagne jusqu'à midi en direct avec Julia Vignali. On vous pose la question suivante ce matin. Suivez-vous toujours votre intuition ? On va voir ce qu'il est conseillé de faire ou pas avec notre expert dans quelques instants. Mais avant ça, c'est notre fin limier préféré qui va nous livrer son regard. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour tout le monde. J'ai tendance à suivre effectivement mon intuition, ce qui m'a amené jusqu'à vous dans cette émission. Je me dis que j'ai fait le bon choix et puis parfois je me dis, si j'en avais fait un autre, peut-être que je serais président de la République ou je ne sais pas. Effectivement, face à un choix en amour ou professionnel, il existe plusieurs manières. La première, c'est la manière rationnelle de trancher. Alors on la connaît, on pèse le pour, le contre, on mène un long raisonnement et on se dit, bon, c'est plus sérieux ou plus sage de faire ça. Mais il y a aussi cette petite voix dont vous parliez, Mélanie, qui peut changer vraiment la donne. Imaginez si, par exemple, Hitler avait continué la peinture, si Lionel Messi avait fait du basket, ou encore si le président de la République n'était jamais sorti avec sa prof. Est-ce que le monde ou leur monde serait différent aujourd'hui ? Normalement, oui. Donc, il est important de suivre cette petite voix. Mais il est important de bien se connaître, parce qu'il y a plein de gens qui ont suivi cette petite voie et qui ont fait le mauvais choix. Et aujourd'hui, je propose dans cette chronique les pires choix de l'histoire. Il y en a beaucoup. J'ai dû trancher, je vous emmène en 1962, le 1er janvier. Dick Rowe est un producteur de musique. Il a une maison de disques qui s'appelle Decca Records et il reçoit des jeunes garçons qui arrivent et qui chantent pour la première fois. Comment vous appelez les Beatles ? D'accord. Ce que vous faites, c'est nul, vous sortez de mon bureau, vous ne ferez jamais de musique, croyez-moi, et je m'y connais.
Il existe ce gars ?
Il existe, effectivement. Quelle intuition, donc là, il n'a pas écouté la bonne voix. Ouais. Ça existe aussi chez les marques. Vous connaissez tous Kodak, les appareils photo jetables, on prenait des photos, on allait les faire développer, c'était génial. Avec Kodak, ça a été les premiers à inventer l'appareil photo numérique. Ils ont cartonné, ils ont déposé le brevet, ils se sont dit, tiens, on est refait pour des décennies à venir. Ah ben non, ils se sont dit, ah mais si on développe le numérique, on vendra plus de pellicules. Ah, oh là là, ils ont mis le frein à main. Et puis la date du brevet est passée, et puis les autres ont développé le numérique, et Kodak a fait le bilan en 2011. Ils ont déposé le bilan en 2011.
Ah, ouais,
ça arrive régulièrement. À l'origine, Apple. Vous connaissez tous Apple ? Ils étaient trois, et puis il y en a un qui, en 76, a dit, les gars, je crois pas trop au projet. À mon avis, ça fait un an qu'on bosse tous gratos dans ton garage. Moi, j'ai besoin de bouffer un moment. Je vais aller monter mon petit restaurant. Je me casse.
Ouais.
Et aujourd'hui, vous voulez connaître la valeur de ses parts ? Alors, ce qu'il fait, je ne sais pas, mais ses parts vaudraient 100 milliards de dollars aujourd'hui. Et puis, j'ai
un
même
homme
les...
qui a eu du pif. Hein,
un homme qui a eu du pif, évidemment.
Mais il a peut-être rencontré l'amour.
Peut-être. Non, mais peut-être, effectivement, qu'il était plus heureux ailleurs et que s'il avait eu cette vie-là, il aurait pété un plomb. Je ne sais pas, mais je termine avec une prédiction aussi. Septembre 2023. Alors ça, c'est incroyable. Mélanie Gomez et Julia Vignali montent dans le bureau de la direction en disant « On veut une augmentation de dingue ». Là, la direction refuse et leur petite voix, elle a bien fait l'écouter. Vous savez pourquoi ?
Non.
Parce que six mois après, elles vont remonter dans le bureau puis redemander la même augmentation. Bref, c'est un jour sans fin. Voilà. On va vous aider à faire le bon choix. On va tout vous expliquer.
Merci beaucoup, Clément Lanoux. Allez, maintenant, on va donner la parole à notre invité. Bonjour, Saverio Tomasella.
Bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, psychanalyste et auteur de ce livre « Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition » paru aux éditions Larousse. On va commencer par bien définir notre thème du jour. Comment vous définissez-vous, Saverio, l'intuition ?
L'intuition, c'est une connaissance nue, c'est une connaissance intime du réel. Ce sont donc des informations subtiles et fugaces qu'on va recevoir par rapport à toutes sortes de choses qu'on est en train de vivre, et on les reçoit le plus souvent sous forme de sensations, qui sont des sensations ténues, mais ça peut être aussi sous forme de vision.
Et je crois que vous pouvez vous différencier quatre formes d'intuition, lesquelles ?
Exactement. Alors la première forme, la moins connue, c'est l'intuition mémorielle, c'est-à-dire qu'en fait, notre intuition s'appuie sur toutes sortes de mémoires, de situations vécues. On rapproche ce qu'on est en train de vivre, enfin en tout cas inconsciemment, on rapproche ce qu'on est en train de vivre avec d'autres situations déjà vécues, et notre intuition va pouvoir servir de guidage. La deuxième forme, c'est l'intuition inconsciente. Par exemple, je suis assis dans mon fauteuil, je suis en train de lire un livre, et j'écoute de la musique. Je tourne le dos à la fenêtre, qui n'est peut-être pas la meilleure disposition, mais pour l'exemple, c'est important. Je lis, mais je sens qu'il pleut. Et quand j'arrête de lire et que la musique s'arrête, j'entends et je vois la pluie. C'est-à-dire que même sans avoir entendu ni vu la pluie, je sens quelque chose qui est en train de se passer, même dans mon dos, et cette chose est vraiment en train de se passer.
Et est-ce que c'est quelque chose...
Il nous en manquait deux, encore deux formes.
Il y en a encore deux.
Oui, encore deux. La troisième forme qu'on appelle l'intuition logique ou la métacognition, elle concerne surtout les chercheurs qui essaient de résoudre une énigme mathématique, par exemple. Ils cherchent, et puis un jour ou deux, ils sont en vacances, ils vont se promener, nager, prendre une douche. Pof, comme ça, tout d'un coup, ils ont la réponse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu besoin de réfléchir. Beaucoup de chercheurs qui parlent de ça, la réponse leur vient à un moment de détente. Et quatrième forme, qui est une intuition qu'on appelle soit la prémonition, soit le pressentiment, et vous avez parlé du présage, qui est un très beau mot, qu'on appelle aussi la précognition, c'est une intuition particulière parce qu'on a des informations qui viennent du futur, de quelques minutes à quelques jours, voire plus.
Celle-là, on aimerait bien la développer particulièrement.
Ouais, c'est génial. Parfois, ça s'avère vrai. Ouais. Ça se réalise.
Est-ce que c'est quelque chose, l'intuition qu'on a tous en soi ? Est-ce que cette capacité est réservée à un certain type de gens ? Je ne sais pas, peut-être...
Personnalité, hypersensible, on imagine,
par exemple.
Peut-être.
Ouais.
Alors, en fait, tous les humains, petits et grands, sont dotés d'intuition. Nous sommes toutes et tous dotés d'intuition. La différence, elle vient du fait de l'écouter, de percevoir nos intuitions. Mais en fait, on en a tout le temps, toutes et tous.
Pourtant, vous dites que ce n'est pas une capacité qu'on développe énormément en Occident, en tout cas, comparé à qui, par exemple ?
Alors oui, en fait, on ne développe pas la capacité d'écouter, d'accorder de l'importance à nos intuitions. Du coup, effectivement, on peut perdre même le contact avec l'intuition. Les pays où il y a même des continents qui sont beaucoup plus favorables à l'intuition. L'Océanie, par exemple, qui sont encore dans des cultures très proches de la nature, et proches du corps, proches des sensations, mais aussi tous les Amérindiens du nord et du sud du continent américain, où dans la culture amérindienne, les enfants apprennent, quand ils sont enfants, quand ils sont petits, à s'asseoir dans un coin de la forêt, et à attendre tous les jours au même endroit, ça peut être 5, 10, 15 minutes, hein, c'est pas une punition du tout. Hein. Tous les enfants vont chacun à leur endroit, et ils regardent la nature, ils écoutent la nature. Et ce faisant, ils développent une espèce de disponibilité intérieure, de réceptivité à tous les signaux, que ce soit dans leur corps ou dans la nature.
Et est-ce que ces régions dont vous nous parlez, ce sont aussi des régions où les gens sont peut-être plus spirituels et plus connectés parfois à la religion ? Est-ce qu'il y a une relation entre la spiritualité et l'intuition ?
Il y a une grande relation entre la spiritualité et l'intuition. Mais faisons bien la différence entre une religion et ses dogmes. C'est pas parce qu'on est très pratiquant d'une religion et qu'on suit les dogmes qu'on va développer son intuition. C'est vraiment la spiritualité dans l'ouverture au mystère, dans cette définition large de la spiritualité, de s'ouvrir à tous les mystères de la vie, d'ici et de l'au-delà. Effectivement, là, ça va favoriser la relation qu'on a avec son intuition.
Merci à vous, Saverio, et à vous aussi qui nous écoutez ce matin sur Europe 1. Je le sens, hein, j'ai l'intuition que vous allez être passionné par ce sujet. D'ailleurs, est-ce que ces pressentiments sont quelque chose de typiquement féminin ? Vous savez, Julia, on parle souvent
de l'intuition féminine. Oui, notamment sur l'infidélité.
Bon, voilà, est-ce que ça existe vraiment, ce truc-là ? On y revient dans quelques minutes, alors restez bien à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1 et on vous pose cette question ce matin dans notre émission. Suivez-vous toujours votre intuition? En tout cas, notre invité est persuadé que c'est une notion très importante dans notre quotidien. Et notre invité, c'est Saverio Tomasella, docteur en psychologie et psychanalyste, auteur du livre « Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition » et c'est paru aux éditions Larousse. Alors, votre livre regorge de témoignages de personnes qui racontent leur expérience et vous le dites vous-même que vous avez eu du mal à avoir des hommes qui témoignent. Est-ce que l'intuition est un sixième sens plutôt féminin?
Non. Je suis désolé de vous décevoir, l'intuition est partagée à parité entre les hommes et les femmes. Le problème est culturel. C'est que plus les cultures sont machistes ou phallocrates, plus elles imposent aux hommes de ne pas écouter leurs sentiments, de ne pas exprimer leurs émotions, de se couper de leur sensibilité. L'intuition, c'est une des cinq branches de l'étoile de la sensibilité, avec sensation, émotion, sentiment, donc intuition, imagination. Ce qui fait que les hommes, dans nos cultures, ne sont pas habitués justement à écouter leur petite voix, alors que les femmes, si.
Donc ils en ont sans le savoir ou sans l'écouter,
c'est ça? Ils en ont sans le savoir et sans l'écouter.
Et sans le dire surtout.
Et surtout sans le dire, exactement. Voilà.
Saverio, ce sixième sens, cette intuition, elle peut se manifester physiquement. Je crois que vous avez des témoignages de personnes qui ont ressenti même des douleurs, des vrais ressentis corporels quand ils ont emprunté le bon ou le mauvais chemin. Est-ce que vous pouvez nous raconter, je sais pas, l'une de ces expériences?
Alors, dans tous les témoignages que j'ai reçus, effectivement, les mots, les douleurs, sont le signe d'une intuition concernant quelque chose qui ne va pas. Maux de ventre, maux de tête, maux de dos. Et plus ça persiste, plus ça devient fort, plus le corps nous envoie des signaux pour dire que ça ne va pas. En revanche, concernant les frissons, il y a une personne qui témoignait et qui fait bien la différence entre le petit frisson agréable, léger, qui dit que ça va, que c'est une bonne intuition, et un gros frisson plus désagréable qui dit attention, attention, méfie-toi de ce qui est en train de se passer.
C'est dingue,
par
ça.
Exemple, voilà.
Et pour comprendre l'existence de nos capacités intuitives, vous citez des études scientifiques qui montrent le lien entre l'intuition et l'activité électrique dans notre cerveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le plus simplement possible, s'il vous plaît?
Alors déjà, le centre de l'intuition serait à l'arrière de la tête, à l'arrière du cerveau, dans le centre reptilien de notre cerveau, c'est-à-dire le cerveau le plus ancien, suivant l'évolution des animaux et des humains, ce qui veut dire que nous partageons l'intuition avec les animaux, et c'est très proche de l'instinct. Après, concernant les ondes cérébrales, il y a quatre ondes cérébrales, dont deux sont favorables à l'intuition. La première onde cérébrale, c'est l'onde gamma, celle qui est l'onde de la concentration, de la focalisation, comme nous en ce moment qui parlons, qui faisons attention à ce que nous disons, et quand on travaille. Celle-là n'est pas favorable à l'intuition. La deuxième, ce sont les ondes bêta, qui sont la vigilance de tous les jours. Elles ne sont pas spécialement favorables à l'intuition. Et après, on a les ondes alpha. Les ondes alpha sont des ondes calmes, qui sont celles de la relaxation, de la méditation, de la
cohérence
détente.
Cohérence cardiaque, toutes
exactement,
ces choses-là, hein, c'est ça.
De la détente, des vacances.
Ça doit être favorable, ça,
non? Exactement, les ondes alpha sont favorables à l'écoute de l'intuition. Puis nous avons les ondes delta, non, theta, pardon. Les ondes theta sont celles de l'endormissement, du moment du réveil, du rêve, mais aussi de la transe hypnotique.
Donc là, il y a de l'intuition très fort.
Favorable à l'intuition parce que les portes sont complètement ouvertes. La conscience rationnelle ne peut plus contrôler. Et puis encore des ondes qu'on appelle delta qui sont celles du sommeil. Et puis là, on dort, donc...
On va stimuler, même si on réfléchit à ce qu'on dit là ce matin, on va essayer de stimuler les ondes theta,
hein, bien sûr,
pour avoir plein d'intuition. Vous dites aussi, Saverio, que l'intuition, elle nous permet de prendre souvent de meilleures décisions que si on avait fait les choses en réfléchissant. C'est le cas chez les artistes, notamment.
Oui, exactement. Les artistes, ce qu'ils appellent l'inspiration, c'est l'intuition. Tout à l'heure, il y avait Gérard Jugnot dans ce bureau, dans ce studio même, qui disait l'intuition, c'est l'art de s'accorder avec les coïncidences. C'est une très belle définition. Et les artistes ont besoin de favoriser ces moments d'inspiration, d'intuition pour nourrir leur créativité.
Il semblerait que certains artistes, d'ailleurs, aient rêvé de tubes. Je ne sais plus si c'est Paul McCartney ou si c'est John Lennon qui a imaginé.
Moi aussi j'en ai rêvé plein, mais ils n'ont jamais marché.
Non, mais c'est incroyable.
C'est tout à fait vrai. Il y a des artistes exactement qui vont rêver un tableau, un personnage de roman ou un tube musical.
Mais aussi du côté des scientifiques, vous dites par exemple que Einstein, bien justement, l'intuition l'a aidé à élaborer ses théories.
Alors Einstein, c'est justement un artiste, un scientifique complètement intuitif. Il disait qu'il pensait dans ses muscles, il ne pensait pas dans sa tête, et il valorisait la fantaisie même auprès de ses étudiants. Il leur disais, de ne pas réfléchir, mais d'essayer de créer des choses fantaisistes.
Donc un scientifique est un peu un artiste quand même.
Oui,
alors,
donc ce genre de scientifiques, ce sont ceux qui sont très très inventifs, ce sont des artistes.
Mmh. L'intuition, elle se comporte parfois comme une véritable boussole hein, pour s'orienter, vous le dites dans le livre, à travers des témoignages de personnes qui ont choisi tel ou tel métier sur un coup de pif, j'allais dire un sentiment, un pressentiment.
Alors, vous avez des personnes qui vont sentir très tôt, sans pouvoir se l'expliquer, quel métier elles vont faire. Il y avait une cantatrice, dont j'ai oublié le nom, qui disait qu'elle s'était vue chanter à Covent Garden, une cantatrice roumaine, son nom va peut-être me revenir. Et effectivement, c'est devenue une grande soprano qui a chanté à Covent Garden, mais elle ne pouvait pas s'expliquer. Mmh. Avant même d'entrer au conservatoire, elle s'était vue un jour chanter à Covent Garden. Donc il y a comme ça des révélations qui se font dans l'enfance ou l'adolescence sur un métier.
Et ce sont des révélations ou c'est parce qu'elle l'a imaginé qu'elle a rendu ça possible ?
Alors, il faudrait lui demander à elle, hein. Mais je pense que là c'était tellement fulgurant et tellement c'est un présage, un pressentiment.
C'est dingue.
Mais cela dit, vous avez raison, hein. Parfois on imagine quelque chose et puis après on a des visualisations qui correspondent.
Vous aviez imaginé ça, Julia, qu'on serait là toutes les deux quand vous étiez petite sur Europe 1.
J'aurais jamais imaginé une chose pareille, un si beau rêve à vos côtés, Mélanie Gomez. Et en plus je suis faillotte. Alors nos intuitions parfois ne nous concernent pas nous, mais les autres. Par exemple, Mélanie, vous me racontez toujours cette histoire de votre maman sait depuis toujours quand vous allez mal, même si vous lui parlez pas pendant plusieurs jours. Comment on explique justement que certaines mamans, comme celle de Mélanie, soient particulièrement reliées avec leurs enfants ?
Alors, maman et papa, parce que moi je suis très reliée à mes enfants aussi, je sens des choses à distance.
Moi ça marche surtout avec ma mère, plus qu'avec mon père, je ne sais pas pourquoi. Pourtant j'aime les deux et on s'aime autant, je pense, des deux côtés, hein, mais,
oui, mais
ça marche avec maman.
Peut-être que vous êtes plus fusionnel avec votre maman, mais qu'il y a un lien, en tout cas un lien subtil qui fait que même à distance, on sent des choses très fortes.
Mais moi je ne sens pas forcément quand elle va mal, comment elle sent que je ne vais pas bien ou que je suis...
Elle ne se pose pas du tout la question, puisque c'est une intuition, ça lui vient comme ça.
Et le fait d'écouter ces intuitions, ça nous permet, selon vous, hein, d'aller mieux, voire d'éviter de tomber malade. Et vous évoquez l'exemple de Sélénée. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Alors Sélénée, c'est un bel exemple, parce que Sélénée, depuis toute petite, elle doit avoir 25-26 ans aujourd'hui, Sélénée. Quand elle était depuis toute petite, elle avait des gros maux de ventre. Et le médecin de famille disait, ce sont des gastro-entérites. Donc elle s'est dit, je vais apprendre à vivre avec des gastro-entérites. Et grandissant, ça s'accentuait. Et quand elle a eu 16-17 ans, c'est devenu tellement fort qu'elle a dû aller aux urgences. Et aux urgences, on lui a dit, mais mademoiselle, on ne vient pas aux urgences pour une gastro-entérite. Mmh. Et son médecin lui dit, mais c'est pas grave, ne t'en fais pas, c'est le stress du bac. Mais Sélénée, elle avait l'intuition que ce n'était pas ça, qu'il y avait vraiment un problème physique. Elle laisse ses oreilles ouvertes, et un jour, elle entend parler d'un médecin. Elle va voir cette femme médecin qui lui fait faire des analyses sanguines et qui découvre qu'elle a une allergie, une intolérance alimentaire aux œufs, au lait et au gluten.
Mmh. Ah oui.
Et du jour où elle a arrêté de manger des œufs, du lait et du gluten, elle n'a plus eu aucun problème de ventre.
Le bac avait bon dos, hein, finalement, il y avait un truc.
Elle a suivi son intuition, parce que malgré les avis médicaux, elle savait que c'était autre chose.
Que c'était autre chose, exactement.
Incroyable. Oui. Alors ça veut dire que notre conscience a un rôle sur la guérison, peut-être par exemple le fait de guérir plus rapidement quand on est optimiste, ça s'est prouvé en plus, je crois.
C'est prouvé, ça s'appelle l'effet placebo. Hein. Placebo, ça vient du plaisir, c'est-à-dire quelque chose d'agréable. Et on sait aujourd'hui que les médecins qui sont chaleureux, empathiques et optimistes avec leurs patients, quel que soit le traitement, auront des meilleurs résultats. Et elle aura plus forte raison si soi-même on croit à sa propre guérison.
Mmh. Donc vraiment l'optimisme et l'intuition, c'est lié en fait ? Est-ce qu'on peut être un intuitif pessimiste ?
Alors, j'aime beaucoup votre question, parce que je suis convaincu que l'intuition, c'est une force de vie, et qu'elle va dans le sens de la vie, donc de la guérison, et que je pense qu'effectivement, les optimistes écoutent plus leurs intuitions.
Mmh. Mais alors, puisqu'on parle de guérison, est-ce que les guérisseurs, je ne sais pas, les médecins, les thérapeutes, utilisent l'intuition pour guérir, ou uniquement la science, pour prendre les bonnes décisions ou pas ? Est-ce que ce sont des intuitifs, ces guérisseurs, qui sont des scientifiques, quand
alors,
même ?
Parmi les scientifiques et les médecins, il y a les deux. Oui. C'est-à-dire, vous avez des médecins et des scientifiques qui sont très rationalistes, et qui vont attendre qu'il y ait des preuves pour être sûr.
Vous avez cité Einstein tout à l'heure.
Et Einstein fait partie de la deuxième catégorie des scientifiques et des médecins intuitifs qui, eux, vont laisser libre cours à leur intuition. Et quand il y a une intuition, en tout cas, ça devient une piste, ça devient une hypothèse pour chercher la possibilité d'un traitement, par exemple, soit pour un patient, soit un prochain traitement si on est
dans l'impasse. À un moment.
Ou dans l'industrie médicale.
C'est la même chose. Non, okay. Merci Saverio, on va revenir avec vous dans quelques minutes. On a encore beaucoup de choses à dire sur l'intuition. On va passer par exemple à l'intérêt ou pas de l'intuition en amour ou en amitié. Et puis si ça ne vous parle pas tout ça, peut-être que vous ne savez pas exactement justement comment l'aiguiser, votre sixième sens. Alors pas d'inquiétude, on va vous donner la marche à suivre sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali.
et Mélanie Gomez.
On est avec vous jusqu'à midi en direct. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Il est 11h31 et on vous dit tout sur les bienfaits de l'intuition. Je dis bienfaits, mais peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles mieux vaut la faire taire, cette petite voix au creux de l'oreille. On verra ça. Pour en parler, on est toujours avec Saverio Tovazella, docteur en psychologie, psychanalyste. Alors Saverio, on n'a pas encore parlé d'amour. Est-ce qu'on doit se fier à l'intuition dans ce domaine précis, le domaine du cœur ?
Moi, je crois oui. Vraiment, c'est important de se fier à son intuition dans le domaine du cœur, même s'il peut y avoir des contre-exemples. Ils sont rares. Le plus souvent, on ne se trompe pas sur les premières impressions qu'on a.
Oui, mais on a des histoires comme ça qui ont très très mal commencé. Donc là, a priori, l'intuition n'était pas hyper positive et qui finalement se sont terminées en magnifique histoire d'amour.
Oui, mais je pense, sans vouloir vous contredire, je pense qu'en fait, c'était les critères au début qui font que ça ne marchait pas. C'est-à-dire, pas le même milieu social, pas la même religion, pas le même pays, pas toutes sortes de choses différentes où les gens, ou soi-même, rationnellement, ou alors l'entourage disait « mais ça marchera jamais ». Et en fait, ça marche, oui, parce que l'amour est là.
Il y a Simon qui nous a laissé un message, une question sur le répondeur d'Europe 1 au 3921, la voici. Vous parlez de l'intuition des humains, mais est-ce que les animaux ont aussi de l'intuition ? Est-ce que vous avez des exemples ?
C'est une question très importante, oui. Les animaux ont beaucoup d'intuition, et contrairement à nous, eux, ils écoutent tout le temps leur intuition. Et si vous avez un chat ou un chien, regardez vos animaux quand la nourriture ne leur plaît pas, ou il suffit qu'il y ait quelque chose d'avarié, ils approchent leur langue ou leur truffe, et si c'est pas bon, jamais ils mangeront ce qui n'est pas bon pour eux.
C'est ça l'instinct animal ? Et on dit parfois on a nous-mêmes l'instinct
animal. Oui, voilà, c'est de l'instinct animal, mais en l'occurrence c'est de l'intuition. Et il y a des animaux qui sentent les tremblements de terre venir. Il y a de très très beaux exemples de chiens qui ont sauvé leur maître de tremblements de terre.
Et les oiseaux aussi, parfois.
Les oiseaux, exactement, qui s'en vont.
Avant les tsunamis.
Et avant les tsunamis, ce qui s'est passé en Thaïlande, tous les animaux sont montés sur les collines.
Si vous n'avez pas d'intuition, suivez les animaux. C'est une bonne base. On va voir comment justement elle a développé son intuition ce matin avec vous. Il faut d'abord, vous dites, se débarrasser des ennemis de l'intuition. Qu'est-ce qui nous empêche alors d'en avoir ? Est-ce que le stress, par exemple, j'imagine ?
Oui, le stress est un ennemi de l'intuition parce que le stress nous met nous met en demeure de nous défendre, donc soit de fuir, soit de combattre. Et on est dans une attitude guerrière un peu, qui est tout à fait défavorable à l'intuition. Il y a aussi trop de réflexion, trop d'intellectualisation, trop de préjugés, les a priori, les principes. Enfin, tout ce qui va faire en sorte que notre cerveau rationnel va prendre le pas sur le reste de l'ensemble du cerveau, et notamment ce cerveau
le reptilien à l'arrière du cerveau, j'ai retenu.
Mais Saverio, parfois on a une petite intuition, mais on hésite. Comment on fait pour se lancer ? Vous mentionnez d'ailleurs David, qui tire les cartes du tarot, ou d'autres qui écoutent de la musique. Ça aide vraiment à faire le bon choix. C'est pas le hasard, ça, plutôt ?
Alors, dans les cartes du tarot, on pourrait discuter longtemps, parce qu'il y a des personnes qui pensent que ce sont des synchronicités, ou que ce sont des signes, ou alors que c'est du hasard. Mais je pense que ce soit de la musique, ou les cartes du tarot, ou autre chose, la méditation, promenade en nature, toutes sortes de choses comme ça, c'est le fait de se mettre dans un état de disponibilité qui compte. Et que chacune et chacun de nous trouve ce qu'il met dans cet état de disponibilité. Je discutais avec quelqu'un il y a deux jours qui disait qu'elle, c'est la course à pied, d'autres, ça va être la nage, la natation, d'autres, c'est simplement danser.
L'intuition, après, elle peut venir en mouvement, en fait, quand on bouge
plus,
aussi, ça, c'est important.
Les gens qui marchent en forêt, ils ont parfois de belles intuitions aussi.
Alors, autre message sur Insta, cette fois de Ludivine. Elle dit « J'ai une proposition pour un nouveau travail qui a l'air vraiment intéressant et bien payé, mais je ne le sens pas. Je ne sais pas vous dire pourquoi, que faire ?» Elle n'a pas juste la trouille de se lancer dans un nouveau boulot ?
Alors là, il faudrait qu'elle aille voir son psy pour faire le tri, effectivement, entre est-ce que c'est de la peur ? Est-ce que c'est une appréhension ?
Vous avez un truc pour différencier les deux, la peur de l'intuition, justement, enfin de la...
L'intuition, elle est très furtive et elle est toujours un peu à côté de la plaque. C'est-à-dire que c'est une surprise, ça ne va pas exactement dans le sens de ce qu'on attend.
La peur, elle est plus installée, c'est ça ?
La peur est installée. Donc si elle arrive déjà à se rendre compte que c'est installé, ben non, elle a peur de réussir, ou elle a peur des enjeux, ou elle a peur des responsabilités. En revanche, si vraiment elle ne le sent pas et que ça a été net, comme ça, clair
fugace,
et net, évident,
peut-être écouter ça.
Et de l'écouter, voilà.
Ouais. Vous avez des petits exercices à faire chez soi pour augmenter nos capacités à avoir ce sixième sens qu'est l'intuition ? Méditation ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire si vraiment on est un peu à côté de la plaque de son intuition ?
Alors, il y en a qui disent de jeûner. de sauter un repas, si on veut vraiment écouter son intuition, parce que effectivement, ça va nous mettre dans un état d'alerte.
Et c'est vrai que depuis que je fais le jeûne intermittent, je me sens plus au taquet le matin. C'est vrai, c'est peut-être ça. Hein. Vous pensez que pas de sa famille, évidemment, mais...
Non, pas de sa famille, mais si on a envie d'écouter vraiment son intuition, on peut dire, tiens, ce soir, je ne mange pas, ou enfin, peu importe le repas d'ailleurs qu'on saute, mais de jeûner, ça aide d'être dans la nature, d'être en vacances, de prendre une douche bien chaude, ou bien fraîche l'été, hein, peu importe, de faire des choses qui nous ramènent au corps. Mmh. Et donc, effectivement, il peut y avoir la sophrologie, l'hypnose.
Vous parlez même de sonothérapie.
Alors, sonothérapie, c'est passionnant parce que, en fait, quand on est dans un état de relaxation, on active un grand nerf, un grand réseau nerveux qui s'appelle le nerf vague ventral. Et la sonothérapie va activer directement ce nerf vague ventral.
Vous expliquez ce que c'est la sonothérapie pour ceux qui ne sauraient pas.
La sonothérapie, c'est soigner par le son, par la musique.
Les bains de son, on en avait parlé l'année dernière dans l'émission.
Avec des gongs, avec des tambours, enfin, tout ce qui fait du son, avec des gros diapasons, ou de la musique. Hein.
Mmh. Et donc le nerf vague, vous disiez ?
Donc le nerf vague commence au niveau du visage, mais notamment dans les oreilles, il y a le début du nerf vague, et il va passer par l'arrière, justement, du cerveau, et non pas par l'avant du cerveau, donc par la zone intuitive. Mmh. Ce qui fait que la musique de relaxation, mais toutes les musiques qu'on aime, peuvent vraiment favoriser l'écoute de l'intuition.
Même la musique qu'on aime, je veux dire, pas même si on aime...
Même le rock'n'roll.
Ouais, même Johnny, Metallica, enfin ce qu'on aime.
Écoutez, j'ai pas fait des tests sur Metallica, mais je pense
mais
que
Johnny,
oui.
Mais Johnny, ça marche. Ça,
on n'est pas obligé de passer par le gong et la musique de relaxation.
Exactement. D'accord. Celle que vous aimez marchera mieux, à mon avis, ça fonctionnera mieux.
Alors, avoir de l'intuition, c'est bien, on en parle depuis tout à l'heure, mais attention à ce que ne devienne pas non plus négative, parce qu'on le sait, parfois, vous parlez notamment de l'effet nocebo. On a parlé du placebo tout à l'heure, l'effet nocebo. Là, il faut nous expliquer, c'est quoi la différence, justement?
Alors, l'effet nocebo, c'est justement le contraire exact de l'effet placebo, c'est-à-dire un effet qui a un effet défavorable, un impact défavorable, parce qu'on a une croyance que quelque chose va mal se passer. Mmh. Et si cette croyance s'installe, ça va vraiment mal se passer. Donc, dans les guérisons, si la personne n'y croit pas, elle ne va pas guérir.
L'optimisme appelle la guérison, le pessimisme, l'inverse. Quoi.
Exactement. C'est Donc, c'est ça l'effet nocebo. C'est quand on dit à quelqu'un des choses désagréables, et cette personne va y croire, et ça va, par exemple, simplement casser son moral. Ouais. Si on lui dit ta mauvaise mine aujourd'hui...
On en connaît des comme ça.
Ouais. Alors que non, on se sent plutôt bien. La personne qui vous dit ça, si vous y croyez...
Mais c'est vrai que je ne suis pas si bien, finalement.
Voilà,
ça alors que j'étais très
ça peut
départ.
Entraîner toutes sortes de cascades de pensées.
Mais par contre, l'intuition, elle n'est pas toujours bonne. Je veux dire, on parlait de « Ah, j'ai l'intuition qu'il faut suivre ce boulot, celui-là ». Parfois, on a une mauvaise intuition. On a l'intuition que quelque chose va mal se passer.
Alors oui, ouais, effectivement. Alors, l'intuition est toujours
c'est pas
bonne.
La même chose. Ouais, c'est pas la même chose que le nocebo, ça c'est différent.
Non, c'est différent. L'intuition est toujours bonne dans le sens où elle nous donne la bonne information.
Voilà, c'est ça.
Mais elle peut nous donner une information de quelque chose de grave, comme un accident, comme...
On ne peut pas avoir de mauvaise intuition.
Non. Ça, ça n'est pas possible.
Il nous arrive aussi de faire des rêves que l'on pourrait qualifier de prémonitoires parfois. Est-ce que vous pensez que c'est une intuition refoulée, par exemple, qui rejaillirait pendant le sommeil ?
Alors, c'est possible qu'effectivement, on disait tout à l'heure que les hommes ou les gens très rationnels n'écoutent pas leurs intuitions. C'est possible que, comme ils ne l'écoutent pas dans l'état conscient, leur intuition va venir toquer à la porte, soit sous forme de maladie physique, mais aussi de rêve, en leur disant « fais attention à ça ». Donc, c'est possible. Mais sinon, le rêve, c'est vraiment un état propice à l'expression de l'intuition, de toutes les formes d'intuition.
Dernière petite question, est-ce que l'intuition, là on a appris comment la travailler, comment la développer, mais est-ce que c'est quelque chose qui se mature avec l'âge ? Je veux dire, est-ce qu'on devient plus intuitif en vieillissant ?
Je pense qu'on devient plus intuitif et plus intuitif en vieillissant parce qu'on lâche le contrôle. Et on parlait des vieilles personnes, des personnes âgées tout à l'heure, et qui peuvent être des vrais amours, de douceur, d'ouverture du cœur. Et dans ce cas-là, elles sont très intuitives, oui.
Eh bien, merci beaucoup, Saverio Tomasella, d'avoir accepté notre invitation ce matin et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle votre très bon livre sur notre sujet de ce matin, Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition, et c'est paru aux éditions Larousse.
Merci.
Je sais pas pourquoi, là, je sens qu'on va maintenant passer à autre chose, Mélanie.
Ouais.
Je sens une forte présence positive à la porte de ce
Mais
studio.
Mais vous avez vu juste, Julia, c'est incroyable. Ce sont les bienfaiteurs d'Europe 1 qui viennent d'arriver, et avec eux, on va continuer dans les conseils qui nous font du bien. Avec notre expert beauté, Benjamin Lévesque, on va voir comment prendre soin de nos lèvres en hiver. Et puis il y a aussi Jérémy Combe qui va arriver avec nous, notre monsieur bonne manière. Il va nous apprendre ce matin l'art de déguster un café avec classe. Et oui, il paraît que c'est tout un art. On va tout vous expliquer sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. On reste ensemble jusqu'à midi. Et nous sommes maintenant avec deux des bienfaiteurs d'Europe 1. D'abord, Jérémy Combe, bonjour.
Bonjour Julia, bonjour Mélanie.
Bonjour. Alors avant de commencer votre chronique, vous prendrez bien un petit kawa.
Oh, c'est tellement mignon. Est-ce qu'on dit un kawa? Je ne suis pas sûre. Mais en revanche, on va voir que même à ce moment-là du repas, le café est régi par des codes. Et en plus, on prend un café du matin quasiment au soir. Vous verrez ça. Mmh. On verra ça ensemble.
Moi, ce sera avec un petit nuage de lait, un sucre, Jérémy, dans un instant. On va déjà commencer avec Benjamin Lévesque. Bonjour Benjamin.
Bonjour Mélanie.
Alors, vous allez nous donner plein d'astuces pour prendre soin de nos lèvres qui sont souvent plus abîmées en hiver. Là, j'en ai une qui a cassé, là, juste en haut, justement. Ouais. C'est dû à quoi, ça, d'ailleurs? Expliquez-nous, au froid.
Alors, c'est le froid, c'est le vent aussi qui assèche la muqueuse. Hein. C'est une zone qui est quand même très exposée. Et puis, contrairement à la peau qui fabrique de la peau en permanence, eh bien, les lèvres, c'est l'inverse. Les lèvres, elles ne fabriquent pas de peau. Ah. Elles en fabriquent quand ça va mal. Et donc, quand il y a du froid, elle va se protéger pour rester au chaud. Elle va fabriquer de la peau. Et c'est là où on a les lèvres gercées, hein, les bouts de peau. Et donc, c'est là où on va les protéger en sortant son fameux stick à lèvres.
Mais comment on faisait dans le temps?
Tout d'un coup, vous pensez à ça?
Dans le temps, je sais pas, j'imagine que au Moyen-Âge, il n'y avait pas de stick à lèvres.
Alors, c'est vrai.
Il y avait déjà du froid, déjà des lèvres, donc logiquement.
Il faut remonter au XVIIe siècle pour voir les premiers baumes pour les lèvres. Alors, à l'époque, c'était pas de l'huile d'argan saveur grenade, hein, vous en doutez bien, c'était du beurre de cacao ou de la cire d'abeille. Et il faut attendre 1900 hein, pour que les Allemands inventent le stick Labello. Alors, au départ, c'était moulé dans du papier, puis dans un tube. Et on va ensuite utiliser des ingrédients plus industriels, comme la vaseline et d'autres dérivés du pétrole. Et puis, depuis quelques années, eh bien, ça y est, on revient à ces ingrédients de la nature. Vous avez aujourd'hui une panoplie de baumes à lèvres, hein, des sticks teintés comme chez Mavala pour nourrir la peau et puis en plus la maquiller. Mm-hmm. Vous avez des goûts encore plus originaux. Par exemple, c'est chez Baija, vous avez des goûts Morito, vous avez des goûts chocolat. Et enfin, des sticks à lèvres avec des filtres solaires. Hein, c'est la marque Kula qui en fabrique. Alors, si vous partez au ski, ça peut être une bonne chose. Les coups de soleil sur les lèvres, c'est assez rare, mais attention,
Jérémy, apparemment, on a déjà
ça donne des vrais boutons de fièvre.
C'est assez rare, mais il y a aussi les cancers de la lèvre qui existent. Et comme je dis toujours, vaut mieux prévenir que guérir.
Bah oui, merci pour toutes ces choses positives. Alors, parmi tous les ingrédients, lesquels on choisit, Benjamin?
Alors, tout dépend de l'état de vos lèvres et de l'endroit où vous vivez. Hein, s'il vous arrive d'être régulièrement dans le froid et que vous avez des lèvres très sèches comme Jérémy, bien privilégiez plutôt des beurres. Hein, le beurre de karité, le beurre de cacao.
Le beurre salé.
C'est très gras, très épais, donc ça va encore plus vous protéger les lèvres. Et à l'inverse, si vous passez un peu moins de temps dehors, là on va plutôt utiliser des huiles, hein, l'huile d'argan, l'huile de coco, l'huile d'amande douce, c'est un petit peu plus léger, mais ça fera largement l'affaire.
Et ce à éviter, les trucs à surtout ne pas faire?
Alors on évite tout ce qui contient des huiles essentielles, du menthol ou du camphre, hein, ce sont des ingrédients qui vont avoir tendance à irriter et fragiliser encore plus vos lèvres. L'huile de monoï, c'est la fausse bonne idée, hein, c'est l'huile, mais avec le soleil ça va faire un effet loupe et ça risque de brûler vos lèvres. On voit aussi beaucoup de gens, vous savez, se lécher les lèvres en disant tiens, je vais les hydrater. C'est tout l'inverse qu'il faut faire, Mélanie, hein, si vous avez en fait dans la salive une enzyme qui s'appelle l'amylase et qui aura tendance à irriter les lèvres et à les dessécher encore plus. Et enfin, dernier petit conseil, un stick à lèvres, c'est comme une brosse à dents, c'est un par personne.
Hein, parce que ça se prête, ça, j'en vois des fois.
Le problème, c'est que vous risquez de transmettre des virus, hein, l'herpès, et puis il y a d'autres maladies comme la mononucléose. On n'en parle pas assez.
Bon, si on n'a plus de baume ou de stick à lèvres et qu'on doit sortir dans le froid, est-ce que peut-être vous avez malgré tout un système D?
Alors, si jamais ça arrive, direction votre cuisine, vous pouvez mettre du beurre ou de la margarine. C'est gras.
Vous voyez, je disais beurre salé en rigolant tout à l'heure, mais
c'est pas idiot. Vous avez aussi n'importe quelle huile fera l'affaire, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, enfin ce que vous avez dans votre cuisine. Si jamais vous n'avez pas ça, là vous pouvez aller dans votre frigo, vous prenez du gras de jambon, vous en mettez sur les lèvres.
C'est pas le plus glamour, c'est pas le plus sexy,
mais c'est hyper efficace pour tenir vos lèvres nourries et protégées du froid. Et sinon, une crème pour les mains ou pour les pieds, c'est souvent bourré d'actifs qui sont très nourrissants, comme de la glycérine, et donc ça va dépanner à coup sûr.
Je vais vous prêter une tranche de jambon, Julien, pour vous votre crème de pied.
Franchement, vu le prix d'un stick à lèvres, on va rester sur le stick, je pense, quand même.
Et cette mode des peelings des lèvres, justement, est-ce que c'est bien ou pas? Parce que j'ai vu ça, mais j'ai jamais essayé.
Alors oui, on voit ça sur TikTok. Ce sont des jeunes filles qui font des peelings sur les lèvres pour brûler chimiquement les gerçures.
C'est des peelings,
c'est l'appel le lip basting. Alors j'ai posé la question à une dermatologue, le docteur Nina Ross. Voici sa réponse.
Les peelings lèvres, c'est plutôt à éviter en hiver parce que c'est une technique qui va être relativement irritante sur une zone qui est déjà fragilisée. Si vous avez les lèvres qui pèlent et qui sont desséchées, c'est vraiment la fausse bonne idée. Ça ça va piquer et puis ça va avoir tendance à creuser les petites fissures.
Voilà, donc on évite les peelings. En revanche, les petits gommages très doux,
ça vous pouvez
le faire pour retirer les petites pommes mortes.
Ou le gras de jambon.
On apprend plein de trucs dans cette émission. Merci Benjamin, grâce à vous, nos lèvres sont parées pour traverser même le pire des hivers s'il le faut. Et bien voilà, en hiver, il y a autre chose qui fait du bien, c'est de se réchauffer avec un bon petit café. Jérémy Combe, c'est à vous. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'art de servir le café. Alors là, si on m'avait dit que même dans cette situation, on peut commettre des fautes, alors je ne l'aurais jamais cru.
Bah oui, c'est vrai.
Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais le café nous accompagne du matin au soir. Un café pour démarrer la journée dans un mug chez soi, un café au bureau dans un verre en carton devant le distributeur. On va déjeuner au restaurant, on nous le sert dans une tasse. Et le soir, si on a un dîner, il y a l'art du café. Le café fait partie de notre quotidien, mais pour autant, il ne faut pas oublier qu'il y a des codes liés à sa dégustation.
Bon, je vous avoue que je ne sais même pas quelle question vous posez, parce que je ne me suis jamais posé de question sur l'art du café. Vrai. Alors, allez-y. Hein,
alors, je vais vous parler, moi, du café. Ça, il faut d'abord savoir que le café ne se sert jamais à table.
Ah bon, ah bon.
C'est-à-dire que si jamais vous recevez pour un déjeuner ou pour un dîner, exactement, debout.
Mais non.
Ou assis au salon, si vous habitez, vous qui nous écoutez, un studio, vous avez préparé votre dîner. Et
Benjamin, écoutez bien.
Voilà, chez Benjamin. Eh bien, au moment du café, on sort de table. Comme
je vous avoue, il ne nous a même pas servi de café, là. Enfin, on a été chez lui, donc si.
Il était 23h.
Mais dans sa salle de bain, c'était la seule pièce disponible.
Et bien, alors, okay. Vous n'irez pas non plus dans la salle de bain de Benjamin, mais en revanche, vous servirez le café debout. Mais est-ce que vous savez pourquoi?
Ben non.
Debout, ou je me répète, dans le salon, assis.
Pour la digestion.
Pas là où on a mangé, en tout cas.
Pas exactement. Parce que si jamais vous aviez des voisins de table qui n'étaient pas vraiment hyper joyeux et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre que vous n'avez pas pu voir parce qu'il n'était pas à table à côté de vous, c'est pour pouvoir justement
varier les plaisirs et les conversations. Parfois, j'invite juste une copine, on n'est que deux. Comment on fait dans
le cas un peu, Julia. C'est vrai que si on déjeune tous les deux dans un restaurant, on ne va pas se lever pour boire notre café.
Okay,
c'est pas dans un déjeuner ou dans un dîner. Si jamais vous voulez du sucre, eh bien, ou il y a une petite cuillère à sucre ou une pince à sucre, et si jamais il n'y en a pas et que vous avez la moitié d'un sucre, vous ne reposez pas l'autre moitié dans le sucrier. Il y en a beaucoup qui peuvent vous rire, mais il y en a beaucoup qui le font.
Vous faites ça, Julia?
Bah,
évidemment. J'ai un peu peur. Chez vous, je veux bien, mais pas chez les gens.
Mais
moi, je le pose à côté de la tasse.
On pose exactement à côté de la tasse. On garde toujours sa tasse avec la sous-tasse à la main. On ne repose jamais son café.
J'ai même pas de sous-tasse chez moi.
Je suis persuadé que vous en avez. Et quand vous avez mis le sucre dans cette fameuse tasse, c'est pas comme si vous battiez des blancs en neige. Il y en a qui partent dans une espèce de roulement de tambour. Voilà.
Mais parfois, c'est pour combler un blanc, un vide.
Vous savez, l'art de la conversation, on en reparlera, Benjamin, parce qu'il y a un vrai problème.
Julien, il a le petit doigt levé là. C'est chic ça ou pas, le petit doigt?
Ah non, il y a rien de plus pouque. Je suis désolé. Pour ceux qui nous écoutent et qui le feraient en pensant que ça fait bien, on ne lève jamais le petit doigt.
Bon, je ne sais même plus si on a le droit de demander un deuxième café, éventuellement, ou c'est mal poli.
Alors, on ne réclame pas un second café.
C'est à l'hôte de proposer.
Exactement. Ah. Autrefois, c'était assez chic. On servait, vous savez, le café à l'aide d'une cafetière. Mm-hmm. Aujourd'hui, maintenant qu'il y a des machines à café, souvent, on ne vous propose pas de café, on vous propose une couleur de capsule.
Ah oui. Tu veux un violet, tu veux un noir, tu veux...
C'est exactement ça. Mm. On propose des eaux chaudes, un déca ou un café, mais on a impose le café aux autres. On ne commence pas à être un commercial d'une marque de café. Vous voyez ce que je veux dire? C'est insupportable. Parce que sinon, vous changez de métier, vous serez démonstrateur pour la marque de café.
Il y a aussi, vous savez, le café du matin, lorsqu'on est entre amis ou en famille. Et là, je crois que vous avez quelque chose à nous dire.
Oui, alors là, les Français sont experts en tartines trempées, ce que j'appelle.
C'est-à-dire...
On peut aller chez tout le monde, le bon café, le bon thé. Et là, tout à coup, la personne prend sa tartine, met des confitures et va tremper la tartine.
On ne peut pas faire ça.
Non, on fait. Quand on est vraiment seul avec soi-même.
Ouais. Ah ouais, seul.
Ou avec son mari, mais on le connaît depuis longtemps.
Moi, j'ai jamais trempé quoi que ce soit dans un café.
Ah ouais, bravo Mélanie. D'abord parce que vous avez vu, ça se décompose,
mais
ça fait des
yeux. Ça fait des morceaux dans le café.
Ça fait des taches d'huile, ça fait des cafés. Donc pour des morceaux, pardon, dans le café. Donc pour commencer la journée, merci la douceur. Parce qu'il faut savoir que la transformation des aliments ne commence qu'à partir du moment où on les met dans sa bouche, quoi, en gros. Donc pourquoi on irait nous créer avant de devancer ce que le corps sait faire tout seul?
Ouh, il nous fait une chronique de bio là, attention.
Excusez-moi, mais on n'a pas parlé du déca. Si on me propose un café mais que je veux un déca, j'ai le droit de le dire?
Alors, quand même. Vous pouvez le dire, mais normalement... Non, mais on peut le dire, mais si la personne ne propose pas...
Ah oui,
c'est
tu veux un café ou un déca?
Et je déconseille à vos hôtes ou à ceux qui nous invitent de nous faire croire qu'on boit des décas quand c'est du vrai café. Parce que pour ceux qui ont des
problèmes... Je l'ai fait l'audio, on m'a demandé un déca,
ah,
je savais un café.
Ah non, mais ça, c'est vraiment lamentable.
Personne t'en rend compte.
Bah,
c'est
moi, on l'a fait récemment, et je n'ai pas dormi de la nuit. Et le lendemain, j'ai appelé, je lui ai dit, tu m'as servi un café. Et c'était vraiment ça. Et ce qu'il faut aussi ne pas omettre de faire, c'est que les personnes vous offrent des chocolats en arrivant chez vous. C'est au moment du café qu'on les offre. On ouvre la boîte de chocolat.
On parce passe que... le garder pour nous.
Bah non, parce que sinon, elle est de plus en plus mesquine un
mais
peu.
Non, elle était plus polie au début de la saison. Je trouve qu'elle se lâche là. En fait, on découvre le vrai visage de Julia.
Parce que ne pas ouvrir des chocolats, ça pourrait être un signe de dire je vais aller les offrir.
Mais c'est ce que je fais.
Demain, quelqu'un d'autre. Ah bah, on va les offrir à Romain qui arrive. Romain va avoir une boîte de chocolat.
Mais tout le monde a fait ça. Tout le monde s'est gardé des chocolats.
Mais moi, je glisse un petit mot dedans comme ça quand la personne ouvre à voir que c'était pas pour elle.
Mais vous êtes terrible.
Mais voilà, parce que même avec le café ou les eaux chaudes. Mm-hmm. Les bonnes manières, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même bon à savoir.
Eh bien, merci beaucoup
merci
pour ce cours de bonnes manières. C'était parfait pour justement être toujours au top, même au moment du café Romain des Arbres. Il est quasiment midi, c'est donc la fin de ce magazine. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Bien fait pour vous sera de retour demain à 11h. Qu'est-ce qu'il y aura au programme, Mélanie?
Alors, vous savez, si on entend souvent que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, il faut savoir aussi que cela ne veut pas dire qu'elles vivent forcément mieux. Différence biologique, mais aussi sociologique. Nous allons voir demain comment mieux repenser la santé au féminin, au bénéfice de tous, hommes et femmes.
Et bien maintenant, nous allons céder la place à l'info sur Europe 1 avec Romain Desarbres. Bonjour.
Bonjour
Europe
Julia.
Europe Midi arrive. Quel est le programme?
Alors dans Europe Midi, j'aimerais vous entendre sur les menaces de la CGT à Marseille, notamment la CGT qui veut, dit-elle, manipuler certains compteurs électriques. Ce n'est pas la CGT qui fait la loi en France, a dit Bruno Le Maire ce matin sur Europe 1. On va en parler. Est-ce que vous êtes scandalisé par ces menaces? Vous appelez le 3921. On sera avec un représentant de la CGT et on sera également avec Stéphane Siro, qui est historien, sociologue des grèves, spécialiste de ces mouvements. On va parler également des influenceurs. Il y a des plaintes qui ont été déposées contre des influenceurs basés à Dubaï qui demandent, qui vantent les mérites d'investissements financiers. Bon, voilà, il y en a qui sont tombés dans le panneau. On va en parler. Puis on va parler des passoires thermiques. Voilà, les propriétaires sont furieux contre les nouvelles règles.
Eh bien, merci. C'est un beau programme. Merci beaucoup, Romain Desarbres. À tout de suite.
À tout de suite.